On arrive au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, métro Strasbourg-Saint-Denis. Zabou Breitman est déjà sur la scène, une heure avant la répétition. Elle attend Léa Drucker. Elle est au milieu des décors.
Alors là, nous avons quoi ? Nous avons plein de trucs parce qu'il y a. En fait, vous avez trois actes en un, là. En fait, c'est ça qui se passe. Vous avez trois actes en même temps, hein. Donc, vous voyez des escaliers, vous voyez des arbres, vous voyez une maison. C'est comme si. C'est comme la pièce est à un côté. En fait, la seule chose qui soit vraie au théâtre, la seule chose qui ne soit pas un mensonge, c'est qu'on est au théâtre. Ça, c'est le seul truc. Et comme Feydeau ne fait que du quiproquo, c'est-à-dire qu'il mélange du faux sur du faux du théâtre, il met du faux sur du faux vrai, du faux faux sur du faux vrai, donc il s'amuse à jouer en permanence avec la mémoire du spectateur. Il joue tout le temps sur la mémoire du spectateur qui est un peu en avance, un peu en retard. Les personnages, il y a des personnages très en retard, des personnages moins en retard que d'autres. Il joue sur le temps en permanence. C'est complètement dingue. Donc le décor, il est faux. Tout est faux. Il est vrai. C'est un faux vrai. C'est pareil, c'est du trompe-l'œil. C'est comme Feydeau, tout est en trompe-l'œil. Et il joue non seulement avec l'histoire, mais il joue... Il joue avec le théâtre. Il joue avec l'histoire et avec le théâtre en même temps. Dans ses didascalies, il y a ça. Donc il y a un peu, comme s'il y avait un peu de didascalie dedans, dans le décor. Il y a un petit peu de... Comme il joue tout le temps sur la convention, ben, le décor, il a ça aussi. Il s'envole d'ailleurs. On voit, il est en l'air. Il s'envole, les bouts qui partent.
Et d'ailleurs, dans La Dame de chez Maxime de Feydeau, si on trouve la vérité, enfin, s'il n'y a plus de mensonges, s'il n'y a plus de quiproquo, il n'y a plus de théâtre et la pièce s'arrête.
Il n'y a plus de pièce. Donc on a l'impression qu'il ne peut plus s'arrêter. Donc il en rajoute en permanence pour pas que ça s'arrête. Parce que quand on s'arrête, on est mort, quoi. Donc il y a un truc comme ça de surexcitation. Il y a un côté très enfantin aussi, quand même. Hein. Je trouve très fort. Où il ne faut pas s'arrêter de jouer. Faut pas qu'on s'arrête de jouer parce que c'est terrible quand on s'arrête de jouer. C'est terrible de dire bon bah c'est suffit, arrête de jouer avec le ballon, viens manger. C'est un truc qui est très angoissant en fait. Donc il faut pas que ça s'arrête. Il y a un truc comme ça, ouais, effectivement, qui est extrême. C'est la vie extrême, quoi.
Il est 20h sur France Culture et le metteur en scène Roger Planchon disait « Le théâtre, c'est la mise à jour du conflit. C'est tout ce qui paraît ne pas aller dans le monde quand on raconte une histoire d'homme. » Zabou Breitman, que Planchon a dirigé, aime mettre en scène des pièces dont le monde s'enraye. Parce qu'il y a un grain de sable, quelque chose qui ne s'accorde pas, qui n'acquiesce pas, un être un peu plus libre que les autres qui vient dire ce que personne n'osait formuler, qui bouscule l'ordre apparent. Dans un monde où il est apparemment si important de savoir qui est qui, où il faut faire partie du groupe, se ressembler pour se parler, la môme crevette détonne. Dans la pièce de Feydeau, La Dame de chez Maxime, elle est celle qui parle haut et fort. Ce sont les derniers jours de répétition. Nous sommes sortis du studio pour se rapprocher de la scène. Nous sommes au théâtre de la Porte Saint-Martin, à Paris, près des grands boulevards. La toute première de cette pièce, c'était le 17 janvier 1899. Un succès, 600 représentations en 2 ans. Zabou Breitman s'en empare et offre à Léa Drucker le rôle de la môme crevette. Après une nuit arrosée, le docteur Petitpont réalise qu'il a dans sa chambre la môme, une danseuse du Moulin Rouge. Il va falloir cacher cette vérité à sa femme, Gabrielle Petitpont. Zabou Breitman met en scène 16 comédiens, 3 décors. On continue le mensonge, on continue la fiction pour continuer le théâtre. La Dame de chez Maxime de Feydeau, ça commence le 10 septembre au théâtre de la Porte Saint-Martin. Léa Drucker joue la môme crevette, elle a comme partenaire de jeu, entre autres, Anne Roger, Michel Esco, André Marcon ou Éric Pratt. Zabou Breitman met aussi en scène une pièce jeune public, Thélonius et Lola, ce sera en octobre à Amiens, et elle a créé sa compagnie, Cabotine, pour soutenir des jeunes artistes. On rencontrera le jeune directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin, Jean-Robert Charrier, et en studio, le fils de Zabou, le jeune comédien et metteur en scène Antonin Chalon, nous attend au piano. C'est Tous en scène sur France Culture.
On a la chance, Zabou Breitman, d'être sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin. On est quelques jours avant la première, là on est avant les répétitions, donc la salle est vide. Et puis sur la scène, là il y a Léa Drucker qui est en train d'attendre, qui joue la môme crevette. Et puis il y a un piano, Reinhard Wagner, et la musique est en live dans la pièce.
Bah oui, j'ai demandé à Reinhard de venir non seulement composer des musiques, des chansons qui sont écrites, mais de jouer. En live, donc qui est-ce qui joue? C'est la duchesse. Bah donc c'est la duchesse. Donc Reinhard et la duchesse. Ah, une très belle duchesse.
Calme, ordonné, fait pour le ménage dans mon petit audit. Avec ma cocotte pour tout potage, j'avais le paradis. Hélas, pourquoi sur cette terre le bonheur dure-t-il si peu? Le mien devait être éphémère. Voyez, il n'a pas fait long feu. Ma pauvre cocotte, la chère petite, faut-il que le monde y soit méchant? Pour la prison de Saint-Lazare, voilà qu'on la prend. Ma pauvre cocotte. Deuxième strophe. On s'inquiète peu de mon existence. Comment je m'en tirerai? À Saint-Lazare, fausse habitance, moi je turbinerai. Et sans cœur, ils me l'ont bouclé. Elle qui faisait l'orgueil des fortifs. Elle n'était pas matriculée. V'là ce qu'ils ont donné comme motif. Ma pauvre cocotte, la chère petite, faut-il que le monde y soit méchant? Pour la prison de Saint-Lazare, v'là qu'on me la prend. Ma pauvre cocotte.
Mais c'est plus facile de chanter quand on est en personnage que quand on est en soi.
Ah bah oui.
Ouais. C'est très encourageant. Tu interprètes.
Ouais. Ah oui, ça.
Mais Reinhard, il adore.
C'est là-dessus que je m'appuie. Parce que sinon, je ne sais pas.
Comme disait Guitry de Yvonne Printemps ne sera jamais handicapé par une grande technique. Ce qui fait son charme et son talent.
Ah oui, oui, oui. C'est ça, dès que toi-même, t'oses pas, et quand t'es en perso...
Alors ça va, parce que je me remets dans la tête de la môme crevette.
Ah, ça, c'est sûr, tu seras jamais handicapée par une bonne technique.
Et là, Zabou, c'est le tabouret de votre père?
Oui,
au
c'est
piano.
Le tabouret. Bah oui, c'est le tabouret de mon papa.
Ouais. C'est son tabouret de piano.
C'était son tabouret de piano, ouais, ouais, absolument. Donc, je trouve ça émouvant. Et puis, en plus, confortable, hein, c'est ça, Reinhard? Voilà.
Parce qu'avant, beau, hein,
il est très, très beau. Il est charmant, il est... Oh oui, ça me fait un truc de le voir là. J'avais vraiment envie de mettre quelque chose dans le décor. Alors, il y avait un piano mais qui ne correspondait pas parce qu'il était trop grand, c'était un quart de queue, là c'est un crapaud. Et je tenais vraiment à mettre un truc dans le décor. Et ben voilà, c'est le tabouret du... C'est le tabouret. C'est bien.
On a glissé de la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin au foyer. Donc là, on est dans un endroit illuminé par les mosaïques et il est inscrit sur la fenêtre Théâtre de la Porte Saint-Martin depuis le 27 octobre 1781. Et Léa, vous montrez.
Oui, j'adore ce... C'est quoi, un médaillon, on va appeler ça comme ça? Oh, un grand...
Mais c'est magnifique.
C'est Sarah Bernard.
Ouais.
Non ?
Ouais. Oui, c'est Sarah Bernhardt.
Et c'est super beau.
Ah, c'est magnifique. Là, il y a Coquelin. Ah ouais, ouais, c'est sublime. Chanteclaire, Guitry. Non, mais c'est bon. Voilà, c'est beau, quoi.
Et ça, c'est un rêve de gosse de se retrouver dans un endroit comme ça.
Et t'as vu ce qu'il y a écrit là-bas ? Il y a écrit « C'est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens ». Comme s'il y avait une petite malhonnêteté. Tu vois ? Comme si ça leur mettait une petite diablerie quelque part.
C'est une citation de Molière. Oui. Zabou Bretman, c'est pas la première fois que vous mettez en scène Feydeau, puisqu'il y a 6 ans, c'était le système Ribadier à la Comédie Française. Pourquoi, à un moment donné, on jouait plus Feydeau ? Et est-ce que c'est votre père qui vous a fait lire Feydeau, Jean-Claude Deray, qui était acteur, comédien, scénariste, et qui avait cette même façon d'aimer les mots et l'invention de monde sur scène ?
Oui, oui, ça, sans aucun doute. Il était un fan absolu de Feydeau. Il adorait le côté irrévérencieux, mais en même temps, l'élégance absolue. Donc c'est un mélange qu'il adorait, c'est l'extrême culture. C'est tellement cultivé que il peut lever la patte et dire allez donc, c'est pas mon père. C'est-à-dire que il y a un côté comme ça léger et très solide au fond. Et c'est ce mélange-là qu'il adorait. Et puis les bons mots, l'esprit, c'est la rapidité de l'esprit et cette façon folle que Feydeau a de passer d'un sujet à un autre avec parfois une cohérence, on va dire, psychologique des personnages et tout ça, et parfois pas du tout. Parfois, il fait faire un truc à un personnage juste parce que ça lui plaît bien à ce moment-là. Mais c'est-à-dire que tout à coup, le personnage, c'est comme s'il était déconnecté de toute situation et qu'il avait juste envie de dire un truc, alors il le dit.
Et là, on va découvrir donc le docteur Petitpont est sous le canapé. Et alors très vite, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? Qui a mis ce canapé sur moi ? Comment ça, je suis par terre ? Si ça me plaît d'y être, je peux rester ? Donc très vite, on rentre tout de suite dans la comédie et on se rend compte que cette danseuse du Moulin Rouge, la Môme Crevette, va sortir de sa chambre. Et voilà, donc ça, c'est le départ de tout ce qui va se détraquer ensuite. Et en fait, il y a quelque chose au centre de la pièce, évidemment, la dame de chez Maxime, Zabou Bretman, Léa Drucker, qui est dans un monde où c'est tellement important de savoir qui est qui, et où tout est en ordre apparent, tout à coup, il y a la Môme Crevette qui arrive et qui fait que toutes les identités glissent.
Mais c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que c'est le glissement des identités, c'est vraiment ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que donc, au milieu de tout ce code bourgeois, hein, puisque c'est de ça qu'il parle beaucoup, au milieu de tout ce code bourgeois et au-delà de tous les codes en général, il va y avoir... cette Môme Crevette qui, elle, est réelle. C'est-à-dire que la réalité, c'est elle. La partie la plus saine, l'identité la plus juste, c'est la Môme Crevette, qui est tout à fait d'accord pour qu'on l'appelle différemment, parce que de toute façon, amusons-nous avec ce qu'il y a sur le moment. Elle, on se disait, c'est avec Léa, hein, c'est vraiment ici et maintenant. C'est un peu comme les enfants qui n'ont pas de permanence de l'objet. C'est-à-dire qu'une fois qu'un truc a disparu, bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant ? Elle a un côté comme ça. Donc ça lui va. Et puis, ce qui lui va, c'est de s'amuser avec ce truc-là, c'est-à-dire de détourner les codes. Et puis, elle les connaît quand même, parce que elle, on va dire qu'elle la jambe, c'est un peu Nini Patte en l'air quand même. Donc, et elle aime bien. Donc, elle les connaît, tous ces bourgeois qui font bonne mine.
Surtout les hommes. Elle connaît tous ces hommes.
Elle connaît tous ces hommes.
De ce monde petit bourgeois, elle les connaît bien, donc ça la fait rire. Parce qu'elle sait bien que quand ils vont vers le Moulin Rouge, ils viennent pas avec leurs épouses. Donc là, elle a l'occasion de fréquenter les épouses et c'est un événement pour elle aussi, ça. Et en effet, elle vient mettre le bazar là-dedans, mais de la joie aussi. Elle leur apporte de la joie.
Elle leur apporte de la joie, ouais. Elle fait peur à Petitpont, oui. Qui évidemment, c'est une catastrophe, puisque évidemment, je ne sais plus qui disait, un menteur doit avoir bonne mémoire. C'est-à-dire qu'évidemment, à chaque fois qu'il ment, ça provoque il y a des conséquences sur chaque mensonge. Parce que un mensonge à une personne, c'est une chose. Mais quand la personne commence à propager le mensonge. Et c'est là le propos, c'est-à-dire que le mensonge se propage, et à chaque fois, il a une autre valeur, et ça provoque encore des choses de plus en plus compliquées. Donc c'est cette accumulation de tous les mensonges qui fait que on a l'impression qu'on sort. D'ailleurs, il dit une fois, je m'en sortirai pas, et il dit, J'adore cette phrase, il dit « J'ai l'impression de naviguer dans un rébus. » Parce que c'est tellement... C'est-à-dire qu'il y a une analyse du personnage de la pièce entière. Ça, c'est quand même incroyable, quoi.
Et c'est aussi une histoire de langage, de la langue, parce que très vite, la môme crevette, quand elle se retrouve dans ce mariage, évidemment, elle n'a pas le même langage que cette société bourgeoise, puisque c'est une danseuse du Moulin Rouge et qu'elle est très libre dans sa parole. Et donc, ce qui est très drôle, c'est que comme on la prend pour Madame Petitpont, bah, tout le monde se met à l'imiter et à se dire c'est ça une parisienne, c'est ça l'élégance. Et donc, tout à coup, il y a un choc des langues, des langages, et j'imagine qu'il a fallu trouver une voix, Léa Drucker, pour la môme crevette.
Oui, elle est venue assez simplement, parce que... Alors, je sais... Disons que j'ai une petite part en moi de môme crevette, je crois, de dans l'attitude, dans le fond. Ça m'est pas complètement étranger. Je vis pas de... J'ai pas connu cette époque-là, mais...
Tu vis pas
de
tes charmes.
Non. Non, mais la gouaille, parler fort, être festive et tout ça, c'est des choses que je connais, donc je peux m'appuyer. Moi, je me dis surtout que c'est des gens qui sont... Je me dis, la môme crevette, elle passe ses soirées au Moulin Rouge chez Maxime, ça doit parler très très fort, ils doivent boire de l'absinthe, ils doivent danser, faire les fous. Donc c'est des gens qui n'ont pas... Ils sont pas dans la délicatesse et ils n'ont pas des propos mesurés. C'est franc du collier, c'est génial, surtout quand on est en contraste avec les autres qui, eux, au contraire, sont précieux, respectent les codes et sont prêts à en accepter des nouveaux. Puisqu'on leur dit, ben non, c'est comme ça les codes maintenant à Paris. Ah bon, donc c'est très bête les codes bourgeois en fait. C'est juste, on vous dit, voilà, il faut tenir sa cuillère comme ci et comme ça.
Oui, c'est ça. Elle va quand même dire à la duchesse, ça c'est quand même, c'est assez fort. Oh, ces larbins sont d'un lent. Et la duchesse fait, oh! Et là, j'adore ce dialogue. Et elle lui dit, ben quoi, vous connaissez pas ce mot de larbin? Ça c'est assez formidable. Et la duchesse répond, je le connais sans le connaître. C'est-à-dire que quand on ferme les portes, tout le monde dit larbin, nègre, évidemment.
Des choses
mais
affreuses.
On ne dit pas ça quand... Les propos, c'est qu'en société, on ne le dit pas. Or, ils connaissent toutes ces choses-là, ils sont choqués de manière apparente par tout ça. Mais au fond, c'est quand elle dit, mais vous ne connaissez pas ce mot-là? Bien sûr qu'elle le connaît, bien sûr qu'elle parle mal des gens, bien sûr qu'il parle mal des gens en cachette. Donc il y a toute l'hypocrisie bourgeoise qu'elle s'amuse à secouer dans tous les sens.
Oui, mais c'est beau d'ailleurs. Moi, je me dis des fois aussi que Georges Feydeau, il a peut-être rêvé dans sa vraie vie, donc quand il est dans des mariages comme ça, qu'il y ait une môme crevette qui apparaît. C'est un de ses fantasmes, en fait, de quelqu'un qui vienne. Ça devait être son rêve.
Mais bien sûr.
Ça devait être son rêve.
Comme quand on rigole, quand on a un truc très très sérieux dans lequel on peut pas rire, et on se regarde, et on a envie de. Et on se dit, ce serait drôle s'il y avait, mais on ne le fait pas. Donc il l'écrit.
On va écouter la voix de Madame Simone à qui on avait proposé le rôle de la môme crevette.
Il serait très étonnant, bien sûr, madame, que vous n'ayez pas connu Georges Feydeau, entre autres.
Oui, oui, j'ai connu Georges Feydeau, mais je ne l'ai pas ce qu'on appelle connu. Enfin, je veux dire, je n'ai pas été, j'étais pas son ami, je n'étais pas liée avec lui. Mais bien sûr, je le connaissais. Et j'ai eu la surprise un jour de devoir me demander de jouer à la dame de chez Maxime.
Vous avez joué la dame de chez Maxime?
Non, je ne l'ai pas joué parce que j'ai refusé. Je lui ai dit, vous êtes fou, c'est insensé. Il a dit non, parce qu'il faut, une tragédienne pour moi jouer bien la dame de chez Maxime. Parce qu'il faut beaucoup de force. Alors, il me faut quelqu'un qui ait de la force, alors je viens vous trouver. J'ai dit, écoutez, non, vraiment, je n'ose pas. Mais enfin, j'avais été touchée. J'avais trouvé ça une pensée extrêmement gentille, me croire capable de jouer la dame de chez Maxime. Non, 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 je crois que là, il avait présumé de mes forces. Je me sentais plus capable de jouer Andromaque que de jouer la dame de chez Maxime.
Ce qui est beau, c'est l'idée de la tragédie, de demander à une tragédienne.
Mais bien sûr, elle a dit « je me sens plus capable de jouer Andromaque parce que j'ai pas la force ». Or, on en parlait tout à l'heure, la force qu'il faut pour des acteurs, pour toi, enfin, c'est quand même super, super physique. Ça demande une...
C'est très physique, ouais. Ah ouais. C'est un engagement physique pour tout le monde, hein, pour tout le monde. Mais la môme, j'avais déjà joué le système Ribadier. C'était physique aussi, mais pas autant. Parce qu'en plus, la môme n'existe que sur des elle n'a pas énormément, tant de textes que ça par rapport aux autres personnages. Mais elle existe très fort sur une réplique. Donc ça demande énormément d'énergie, c'est vrai.
Et ça, c'est une émission de 1968 autour de la dame de chez Maxime. Et il y avait Alain Feydeau, qui est le petit-fils de Feydeau, qui disait que son vœu était que ce soit joué avec la musculature et le souffle d'un tragédien. Et alors finalement, c'est Armand Cassif qui avait créé le rôle au Théâtre des Nouveautés en 1899. Mais c'est vrai que cette idée de tragédien et de tragédienne pour jouer ces rôles-là, elle avait l'air d'être très forte pour Feydeau, très importante.
Mais Mais parce que la comédie, c'est d'abord un drame. C'est d'abord un drame. Donc on répète beaucoup en ce moment sur la situation. Une fois qu'on a fait tous les petits rouages et tout ça pour que tous les acteurs travaillent ça, maintenant c'est la situation. C'est un drame absolu. Il est au bout du rouleau, le pauvre Petit Pont. Et Madame Petit Pont, c'est épouvantable. Mais tout est épouvantable. Et c'est une horreur. Et c'est un drame. Un drame, pour que ça soit vraiment drôle, c'est forcément un drame. Dès que ça part trop dans la comédie, c'est moins bien.
Oui, parce que lui, il joue sa carrière, il joue tout. Il joue tout, Petit Pont. Si on découvre qu'il y a la môme crevette chez lui, sa vie est foutue. Donc, c'est pas drôle, non. En fait.
En fait, c'est pas drôle du tout, mais tout comme Fedo, enfin, c'est pas drôle. C'est à hurler de rire, mais c'est d'une cruauté, en plus, sur Madame Petit Pont. C'est quelle horreur, mais tout est terrible. Ouais, c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial, et d'être droit dedans, quoi. C'est fou de faire rentrer autant de nouveaux personnages, quand même. C'est dingue.
Ouais, ouais.
Il y en a tout le temps.
Ils prennent tout de la ferveur religieuse. Ils ridiculisent ça aussi.
Tout.
À travers le...
Ah, mais tout le temps. Cette espèce de... Il dit, mais enfin, ça suffit, ma nièce, sacré nom de Dieu. Et là, il y a l'abbé qui est derrière, qui fait... Oh! Et il fait, comme dirait monsieur l'abbé... Oh, en général. Mais c'est...
L'abbé qui est outré, mais qui me raclait avec ses godillots.
Bien sûr. Il racle
tout
avec les godillots. En fait. Tout y est, quand même.
Tous les petits travers de la société humaine.
Mais d'ailleurs, vous en parliez tout à l'heure, il y a peu de sentiments. Il n'y a pas beaucoup d'amour, même dans la préparation de ce mariage, dans les couples qui sont... C'est quoi les sentiments qui traversent...
On a défini très tôt que certainement Petit Pont, Lucien Petit Pont et Gabriel Petit Pont s'aiment. Sa vraie femme. Ils s'aiment, Gabriel et Lucien, enfin les Petit Pont. C'est un couple qui s'aime. Mais il y a un truc qui est quand même marrant, c'est Mongicourt, son meilleur pote, qui se moque beaucoup de la môme et qui est là, qui assiste à tout ça. Il n'a pas de femme.
Oui.
Il n'en parle même pas. Et donc, il est Saint Toubib qui a 40 ans. C'est intéressant quand même, hein, en 1900. Là, toutes les femmes viennent avec leur mari, mais c'est surtout les femmes qu'on voit. D'ailleurs, ça sera surtout les femmes qu'on verra. Mais il n'y a pas... le petit duc, il est... Elle a envie de se le taper, en fait. Hein,
oui,
ce
oui,
petit
oui,
duc,
oui,
il est très mignon. Puis il est un petit peu... Il faut le dégourdir, quoi.
Oui,
donc
oui.
C'est ça qui lui plaît.
C'est la mission.
C'est la mission. C'est de le... Oui, c'est qu'il soit moins... Comment on dit C'est de le...
Le déniaiser.
C'est le déniaiser. Exactement. Il faut le déniaiser, ce petit duc. Donc c'est très, très sympathique. En fait, il donne à la môme crevette... Des sentiments qu'on prête beaucoup plus volontiers aux hommes vis-à-vis des femmes. On pourrait dire, elle est virile, mais elle est féminine. Mais simplement, oui, elle se comporte comme ça. Elle fait des choses que les hommes font plus facilement, entre guillemets, de manière plus connue aux femmes. Et ça, c'est génial, quoi. Et moi, je pense qu'il a un truc très féministe, en fait. Très. Mmh. Et j'adore ça, quoi. Je trouve ça vraiment... vraiment formidable. Je pense après qu'elle et le général, ils vont s'aimer. Je pense que le général l'adore et qu'elle l'adore le général. Mais vraiment, mais parce que c'est un mec très humain, le général. Et puis, on disait, il vit en Afrique. Quand elle danse... Bon, là, elle danse du pogo un peu, Léa, mais c'est vrai que... Mais c'est un peu ça qu'il décrit. Elle danse une espèce de danse folle, échevelée. On a l'impression que c'est une danse ultra libre, déchaînée. Ouais, c'est un pogo, quoi, en fait. Elle est punk.
Écoutez la voix du journaliste Henri Janson, c'est en 1968 aussi.
Et les décors étaient de Jean Cocteau.
Ouais.
Et je me souviens même d'un soir où nous suivions pour la 10e ou 15e fois la répétition de La Main Passe. À ce moment-là, on était limité en électricité, tout ceci se passait par conséquent dans l'ombre, dans l'obscurité, dans un climat grand-guignolesque. Je me tourne vers Cocteau et je lui dis, dis donc, si demain soir, c'est demain soir la générale, et vois-tu que le public ne rit pas? Cocteau me dit sans se déconcerter, ben s'il ne rit pas, ce sera sur Pocle. Car la dame de chez Maxime, car les personnages de Fedo sont des personnages désatrides. C'est la famille des Atrides, ajouta-t-il.
Mais dites-moi, en fait, Georges Feydeau était également le metteur en scène de ses propres pièces. C'est difficile d'être à la fois son propre metteur en scène. Il ne laissait rien au hasard.
Et il ne laissait rien au hasard. Et si vous avez, si vous prenez par exemple, on édite maintenant Feydeau dans le livre de poche. Mm-hmm. Et on était, quand on relit les pièces de Feydeau, on est absolument stupéfait par le nombre d'indications scéniques. Il y a plus de textes pour indiquer la mise en scène que de dialogue.
Quand on a enlevé les didascalies, les indications de scène, et le texte est plus que la moitié. C'est complètement dingue.
Il y a énormément d'indications scéniques, oui. De rythme, même ouais de rythme. Il y a quelques répliques où il écrit simultanément, à dire simultanément.
Oui, c'est Denis Kelly.
Il y a des détails incroyables aussi sur certains mécanismes. Il faut prendre tel fil électrique pour l'apparition. Donc il y a énormément de détails de mise en scène.
Oui, alors il y a un truc qui est rigolo, c'est que bon, j'ai beaucoup réduit, d'accord, mais il faut faire attention en réduisant de pas nuire à cette espèce de mécanique folle. Mais il y a un truc qui est drôle, c'est que parfois j'ai une super idée, je me dis oh voilà on va faire ça et je m'aperçois que c'est la didascalie, c'est dans la didascalie. Mais ça c'est très drôle, je dis mais non mais c'est ça qu'il faudrait faire ça. Et d'un coup je lis, je dis bah merde c'était déjà écrit. Je trouve ça tellement drôle. Il y a un moment donné que je me suis dit c'est marrant sur la simultanéité. Je me suis dit oh, mais ça c'est trop long. Faudrait le mettre en même temps. Et j'ai vu que c'est écrit comme ça. Ouais, c'est fait pour ça. Donc en fait, on est toujours plus conventionnel que ça dinguerie. On remet dans des cases hein, ce que lui a ôté, ce que lui a c'est évertué à secouer. Ben on le recodifie, c'est parce qu'on est comme ça, on a une tendance à ça, c'est dur de s'échapper de ça.
Et puis il y a des indications aussi, moi j'en ai deux qui m'obsèdent, j'en parle tout le temps, c'est sur le général, parce que le général, il y a vraiment deux indications, j'en ai parlé avec André Marcon d'ailleurs, je lui dis ça, c'est quoi pour toi, parce que ça me fait vraiment rire, c'est le général entre chair et cuir, donc à vous une réplique, ou alors le général très culotte de peau. C'est une indication de jeu. C'est magnifique. Donc je lui dis, qu'est-ce que tu fais, André, pour faire entre chair et cuir? Il dit, ne me pose pas cette question. Mais je crois qu'il le joue entre chair et cuir. Je crois qu'il le joue très culotte de peau. Des fois, je le sens.
Très culotte de peau.
J'adore ça.
Mais c'est super, parce que c'est un plaisir. Mais c'est génial, parce que c'est un plaisir pour le lecteur aussi. Ouais. C'est amusant à lire. À lire, même sans... Mais pas seulement à voir, mais à lire, parce que ces indications... D'ailleurs, elles sont tellement belles qu'il y en a une que j'ai mise en scène, mais je ne vous dis pas laquelle.
On ne peut pas dire.
Mais elle est carrément mise en scène, parce que c'est tellement drôle. Il a ce que... En fait, c'est comme Shakespeare, quoi. Sur les acteurs, il est comme Shakespeare. Il dit la même chose que Shakespeare. C'est extraordinaire. Sur le jeu, la sincérité et la drôlerie, sur l'interprétation des personnages qui ne savent pas qu'ils sont des personnages, il dit les mêmes choses tout le temps que Shakespeare. Et pourtant, Léa m'a dit, et ça m'avait vraiment fait quelque chose, parce qu'on entend parler du livre de poche, et c'est toi qui m'as dit que tu as cherché.
Oui, je me suis dit, tiens, je vais acheter le volume de la Pléiade sur Feydeau. J'ai jamais trouvé. Après, je me suis dit, j'ai du mal à chercher. Et il n'existe pas. Alors, je me suis interrogée, est-ce que c'est toujours, mais j'en ai aucune idée, est-ce que c'est toujours le principe que la comédie est un genre mineur, même au théâtre? Je me suis posé la question.
Eh ben, faut qu'ils en fassent. Parce que c'est pas normal que...
S'il vous plaît, un beau volume de Feydeau.
Feydeau, Courteline,
La biche.
La biche, évidemment. Ça doit y être, quoi. C'est pas normal.
J'ai pas cherché ça.
Et puis Courteline n'y est pas non plus.
Non.
Et il y a quelque chose aussi de très magique dans les pièces de Feydeau, parfois, dans le système Ribadier, c'était l'hypnose. Et puis là, il y a le fauteuil extatique qui fait qu'on peut endormir quelqu'un. Ça, c'est incroyable aussi, ces moments où on fige le temps.
C'est ça. Ouais, en fait, il fige le temps. Il aime bien figer le temps. Donc, ça lui sert un peu à rien. Un peu à rien. Il pourrait trouver d'autres... Mais il fait entrer ce fauteuil... D'ailleurs, c'est un casse-tête, hein, dans un moment où il y a une urgence absolue pour Petit Pont. Et je me suis dit, mais et Petit Pont oublie complètement ce que je n'ai pas vraiment fait. J'ai fait un mélange. Parce que sinon, et c'est compliqué pour le spectateur, parce que je l'ai vu plein de fois, il y a toujours un moment où, au bout de 3 heures, on lâche un peu. Donc, c'est vrai que j'ai réduit un peu beaucoup, mais le fauteuil existe, bien entendu, il ne peut pas ne pas exister, mais il s'appelle le fauteuil extatique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement endormis, ils sont endormis heureux. Ils sont heureux.
Donc, c'est son côté psychédélique, non ?
Oh la vache. Il est quand même complètement... c'est génial qu'il soit complètement dingue comme ça.
Ouais.
Ils sont figés heureux. C'est la mort joyeuse, quoi.
Tout à l'heure, quand on était sur scène, on parlait de la mécanique, des différents décors, des 16 comédiens, comédiennes qui jouent parfois plusieurs rôles. Zabou Breitman, c'est vrai que quand on lit La Dame de chez Maxime, c'est un défi énorme de mise en scène. Et vous allez reconnaître cette voix qui parle de ce que c'est qu'être metteur en scène.
Bon, je suis metteur en scène et je n'ai jamais vraiment su ce que c'était. Parce que je trouve que c'est composé de briques et de brocs. Pour moi, un grand metteur en scène devrait avoir 4 qualités, et ces 4 qualités sont totalement indépendantes les unes des autres. Je crois qu'un metteur en scène, c'est un inventeur scénique, c'est un plasticien, c'est un directeur d'acteur, et c'est, si vous voulez, quelqu'un qui a une vision du monde. Aucune de ces choses, je le dis, n'est supérieure à l'autre, il faut simplement avoir les 4. Et elles sont totalement indépendantes. Alors, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que l'invention scénique, pour le dire en 2 mots ? L'invention scénique, je crois que ça consiste en ceci, nous sommes dans une pièce et il s'agit d'un problème très simple de faire rentrer un personnage par la porte. Il y a des gens qui diront, ben voilà, ben il rentre, puis c'est fini. Puis il y en a d'autres qui vont inventer 10 façons, 15 façons de le faire rentrer, dont une est vraiment surprenante, à la fois naturelle et surprenante. Il y a des gens qui sont des plasticiens, c'est tout à fait différent, c'est-à-dire sentir l'espace comme un peintre, et d'être capable de cette espèce de ring de 10 sur 10, puisque les scènes sont toujours en gros 10 sur 10, de sentir profondément l'architecture, enfin la plasticité profonde de ce petit ring, et avec 3 éléments, 3 acteurs posés, ou un acteur, même une chaise, de créer un monde plastique qui se rapproche de la peinture. Enfin, il y a la direction d'acteur. Vous savez, on n'apporte pas grand-chose à un acteur, il faut être franc. Mais un grand metteur en scène est capable de cacher les défauts d'un acteur et d'exalter ses qualités. Et il est quelque chose comme un entraîneur sportif. C'est souvent de montrer à un très grand acteur, comme un entraîneur sportif, où est le point d'appui pour jouer le rôle. C'est pareil que le saut en hauteur. Si vous n'avez jamais fait de saut en hauteur, vous avez l'impression qu'il faut prendre son élan, puis vous voyez le fil, puis vous mettez loin, puis vous sautez. Et bien quand on saute comme ça, on ne saute pas très haut. Et un bon entraîneur, il vous explique, la première fois que vous commencez à sauter, ben non, il faut prendre la pelle tout près du fil. Alors évidemment, ça apparaît contradictoire au départ, mais à la fin, c'est comme ça qu'on saute haut. Eh bien, si vous voulez, c'est la même chose dans le travail d'acteur. C'est-à-dire que nous pouvons aider un acteur à trouver ses points d'appui dans les morceaux du rôle pour qu'il saute plus haut, pour qu'il monte mieux, pour que ce soit mieux. Et puis enfin, il y a la dernière chose qui est plus compliquée à parler, qui est ce que je pourrais appeler la vision du monde. J'insiste beaucoup pour dire que c'est pas un métier, c'est pas comme un écrivain où on peut dire qu'un écrivain, il n'y a qu'une chose à la fin. C'est un métier bizarre, hétéroclite. On mélange des choses qui ne vont pas ensemble.
Vous avez reconnu
oui.
Sa voix, Zabou Breitman ?
Oui, Roger Planchon, je me souviens qu'il me disait ça. Il m'avait dit, un acteur, il comparait souvent ça avec le saut en hauteur. Il disait, il saute à peu près toujours à la même hauteur, mais avec plus ou moins de grâce. Et après, il disait aussi un truc que j'adorais sur jouer à 100%. Il disait, il ne faut jamais jouer à 100%. Il faut jouer à 80, 70, 80, peut-être une fois on peut toucher 95%. On n'est pas à fond. Faut jamais être à fond. Faut osciller. Et la façon dont il parle de la direction d'acteur, c'est très très beau ce qu'il dit. Hein. très, 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 très intelligent comme il l'était. Et la direction d'acteur, c'est tellement juste. Un acteur, on va pas lui apprendre à jouer. Ils arrivent avec tous les bagages, quoi. Et après, faut juste les faire briller. Mais c'est très beau ce qu'il dit sur le fait que ça soit hétéroclite et que c'est pas comme un auteur, pas comme un écrivain. Ça, c'est vraiment tellement juste. Et puis parfois, on tire plus vers un endroit qu'un autre. Et parfois, c'est un peu hétéroclite, ouais, ouais, ouais.
C'est sur la vision du monde, c'est très beau. Parce que nous, quand on est comédien, en tout cas dans l'expérience que j'ai eue, je suis très heureuse quand je suis avec un metteur en scène qui a une vision, quelle qu'elle soit, mais qui a une vision claire et sincère pour lui. Et parce qu'à ce moment-là, on est prêt à tout accepter, en fait. Si on adhère à cette vision, ou qu'on a la sensation que ça nous correspond, ou qu'on va découvrir plein de choses dans cette vision, on a envie de... Si le metteur en scène dit « tu tournes la tête à droite à ce moment-là », ben on tourne la tête à droite, on sait que ce sera bien. Et qu'on le nourrira de nous-mêmes.
Mais c'est vrai, ça, comme actrice, c'est vrai que c'est une chose que moi j'adore. Quand je joue, j'adore. Bon, tout le monde me dit « ah bah oui, alors ça doit pas être facile ». Alors après, de diriger, je dis « ben non, c'est le contraire, vous êtes complètement fou oui. ». C'est génial, j'adore ça, j'adore ça. Moi j'adore être dirigée, j'adore ça. J'ai l'impression d'avoir des petites choses à manger et de me dire, ah ok, d'accord, je vais par là. Oh, j'adore ça. C'est fondamental. Et c'est l'angoisse que j'ai, moi, c'est de pas les servir, justement, de pas les faire briller. Comme la petite cloche qu'on avait là qui brillait pas, il fallait la faire briller. Et ben, c'est de me dire, est-ce que c'est là qu'ils sont le plus beau, le mieux? C'est ça mon inquiétude. C'est ça. Et l'autre inquiétude, c'est que la salle soit pas assez pleine.
Et je repense à la vision du monde dont parle Planchon. Il y a une question qu'on vous pose souvent, Zabou Breitman, c'est est-ce que c'est pas trop? Comment vous faites pour faire tout ça? Parce que là, en ce moment, il y a un film qui est en salle. Il y a une prochaine mise en scène en octobre pour le jeune public. Et moi, je sais que vous avez pris un moment quand même, il y a un an à peu près, pour faire un tour du monde et pour faire une sorte de pause. Comment on revient? Qu'est-ce que ça modifie de son rapport au temps, au monde?
Ben moi, ce temps-là, je l'ai pris, c'est il y a deux ans, un an ou deux, je sais plus. Un an et demi. Je l'ai pris parce que mes deux parents sont morts, très près l'un de l'autre, alors qu'ils étaient séparés depuis 40 ans, et que c'était un peu beaucoup. Donc j'avais décidé de prendre ce temps parce que mon chagrin était tel que je me suis dit, la seule chose qui va l'atténuer, c'est d'aller voir des choses grandes, et bien plus grandes que moi, c'est-à-dire la nature, la planète. Et c'est vrai, ça le fait. Et d'être seule, et donc confrontée à quelque chose que j'aime pas trop, c'est d'être me promener toute seule. J'aime pas ça. Je sais que toi, Léa, t'aimes bien, t'as fait des petits voyages comme ça toute seule. J'aime pas trop, c'est hors de ma zone de confort. Donc, c'était très intéressant aussi pour moi, parce que ça me secouait, et ça me détachait de mon chagrin. Parce que le chagrin, on devient tout petit, quoi. Forcément, on devient tout petit, tout serré. Et là, bon, voilà. Ça avait fait ça. Donc, D'abord, le retour, je suis rentrée plus tôt parce que je m'ennuyais quand même. Je l'avoue, c'est horrible, hein, mais je m'emmerdais un petit peu quand même. Bon,
normal.
J'étais en Inde, pourtant c'était à la fin, j'ai fini en Inde, c'était très beau dans un truc où je faisais l'Ayurveda et tout ça, je devais en faire 10 jours. J'ai fait 4 jours et demi, j'en avais super marre. Et pourtant, c'était génial, hein, mais vraiment, j'en avais marre, quoi. Oh, j'avais hâte de rentrer. Alors, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça a éloigné le chagrin. Qui n'est pas parti, le deuil est long, hein. Parfois ça revient, j'ai des bouffées, mais bon, faut aller avec, pas contre. Donc ça m'a permis de supporter mieux. Et en fait, le fait de faire plein de choses en même temps, elles se tuilent toutes ces choses. Elles ne sont pas, oh j'ai fait ça. Là, ce qui est dur là, ça a été la sortie des Hirondelles de Kaboul avec la pièce, parce que la pièce c'est maintenant. C'est pas les Hirondelles de Kaboul, ça fait 7 ans qu'on le fait, là il sort maintenant, mais la pièce c'est tout de suite, les acteurs, le travail à faire, et donc les gens au cinéma comprennent pas forcément. Je dis mais non, mais c'est maintenant là, je vais pas mettre un surtitrage en disant au public, écoutez, il y avait la sortie des Hirondelles de Kaboul, vraiment. Cela dit, pendant cette pièce, je pourrais le faire parce que Fedo autoriserait certainement des surtitrages. Mais là, j'ai vraiment pas eu le temps. Je suis désolée, cette scène-là n'est pas finie. Mais voilà, amusez-vous si vous pouvez. Bon, mais ça se tuile et ça sert. Hein. C'est-à-dire, chaque chose sert une autre chose.
Vous avez créé une compagnie qui s'appelle Cabotine, qui a un mot aussi de l'univers de Fedo.
Complètement.
Pour soutenir des jeunes compagnies, des gens qui ont moins de 30 ans, qui commencent à faire du théâtre. Pourquoi est-ce que vous aviez envie de créer ça, d'avoir une compagnie, d'aider des gens
Mais parce que je peux le faire. Quand on a une compagnie, en général, on est très jeune, on fait sa compagnie pour pouvoir travailler. Moi, c'est pas du tout ça, puisque je peux travailler. Mais si je fais une compagnie, je vais pouvoir défendre d'autres choses. Je vais pouvoir défendre Antonin Chalon qui fait le Denis Kelly, After the End. Je vais pouvoir, et parce que je peux faire de la pub, parce que je peux aider vraiment au bon endroit pour la transmission. Parce que c'est vachement dur quand on a moins de 30 ans, quand on sort des écoles, de travailler. Là, sur la dame de chez Maxime, il y en a 6 de moins de 30. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes.
Dont moi.
Dont Léa. Et toute la bande de d'Anières, ouais, qui sont fabuleux, Solal, c'est super parce que c'est magique de pouvoir fabriquer et de pouvoir faire avec des gens jeunes, mais pas que des comédiens, aussi des techniciens. J'en ai deux qui sortent du TNS. Donc ça, je peux. Alors je vais le faire.
Jean-Robert Charrier, on est dans votre théâtre et là on est en train de marcher autour de la salle. Vous nous disiez qu'à quelques jours de la première, c'était très... tous les espaces étaient envahis.
Ouais, c'est ça. Depuis le début de la répétition, depuis début août, il y en a partout. Il y a les costumières, les habilleuses, les décorateurs, les accessoiristes. Ils s'installent partout dans les couloirs, dans les marches, il y en a partout pour fabriquer le spectacle. Zabou, elle est au centre de tout ça. Elle fourmille d'idées, elle coordonne tout le monde. Mais c'était impressionnant parce que le spectacle est très riche. Sur le plateau, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Et vraiment, le théâtre a été investi dans toute sa capacité. On a un des rares théâtres à l'italienne qui a conservé sa cage de scène à l'ancienne, avec toute la machinerie, tous les équipements scéniques qui permettent des spectacles avec des machineries un peu artisanales, très théâtrales, qui sont un peu perdues de vue maintenant, qui sont un peu, dont on se sert moins. Zabou, elle a vraiment opté pour une machinerie artisanale, théâtrale, que permet la Porte Saint-Martin. Mais du coup, c'est génial parce que ça monte, ça descend, ça va dans les scènes, ça revient, ça part à cours, ça part à jardin. Et c'est super parce que l'outil sert vraiment. On justifie vraiment la création de ce spectacle-là à la Porte Saint-Martin en utilisant l'outil à 100%.
Voilà. Et ça change quoi pour vous, Jean-Robert Charrier, d'habiter, d'avoir un appartement au-dessus du théâtre?
Eh bien, ce que ça change, c'est que je suis là du matin au soir, y compris la nuit, que je peux intervenir n'importe quand, que de toute façon le théâtre m'habite en permanence, le théâtre de la Porte Saint-Martin m'habite en permanence intellectuellement, et puis enfin je veux dire j'y pense tout le temps, donc quand il y a quelques mois on m'a proposé d'y vivre, je me suis dit qu'il n'y avait pas de questions à se poser. C'est génial, j'ai l'impression qu'il est là, je suis vraiment juste au-dessus, donc il me protège, je le protège, enfin c'est donnant.
Et quand vous êtes tout jeune avant d'arriver ici, vous êtes quel genre de spectateur?
Quand je suis tout jeune avant d'arriver ici, j'ai vu plein de spectacles dans le théâtre privé, mais ma mère nous a complètement fait passer à côté du boulevard. Donc j'ai jamais vu un boulevard de ma vie quand j'arrive ici. Et je découvre le boulevard, parce qu'ici c'est le temple du boulevard. Quand j'arrive ici, il y a les pièces de Francis Weber, il y a plein de pièces de boulevard, vraiment des grosses comédies. Et voilà, et pendant plusieurs années, après ma nomination en tant que directeur, j'ai suivi ces traces-là, on a continué à faire du boulevard, et puis il y a quelques années, j'ai décidé de faire quelque chose de plus personnel et d'aller vers des registres différents.
Et si on remonte un tout petit peu la jeunesse de votre présence ici, parce que vous êtes quand même un des plus jeunes directeurs de théâtre à Paris, et c'est assez incroyable la nouvelle histoire que vous créez ici au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Quand vous arrivez, vous êtes ouvreur. Vous prenez un peu des cours de théâtre au cours Florent. Vous avez vu Laurent Terzieff au théâtre qui vous a bouleversé. C'est encore à quel moment ça vient cette envie d'avoir un projet pour ce théâtre-là?
En fait, tout s'est fait de façon hyper très franche, très instantanée et toujours très rapidement, parce que j'étais pas du tout programmé pour faire du théâtre, je faisais des études de droit. J'ai vu Terzieff dans la nuit, j'ai décidé que j'arrêtais le droit et que je venais à Paris pour faire du théâtre.
Et là, vous avez quel âge ?
Et là, j'ai 18 ans. Et puis, je suis arrivé à Paris, j'ai pris des cours de théâtre, effectivement, d'abord au cours Florent, et puis j'ai rencontré un type qui quittait son poste de déchireur de billets à la Porte Saint-Martin et qui me proposait de faire passer mon CV, parce que j'avais pas un rond et qu'il fallait que je paye mes cours. Et puis, je suis arrivé ici, j'ai été pris, et au bout d'une semaine, j'ai senti que j'étais fait pour diriger un théâtre, et en particulier à la Porte Saint-Martin. Et
vous l'avez dit.
Et je l'ai dit, et puis j'en avais la certitude, quoi. Il n'était pas question. Enfin, je me serais pas vu faire autre chose de ma vie.
Mais ça, c'est venu d'où cette certitude ?
Je sais pas. C'était une révélation en arrivant ici. Et c'est quelque chose qui m'a échappé, comme le changement de destinée avec la rencontre de Terzieff a été hyper violente et rapide. Là, c'était pareil. Je suis arrivé ici, j'ai senti que c'était là qu'il fallait que je fasse ma vie professionnelle. Enfin, une partie en tout cas. Je n'ai pas dit que j'allais rester toute ma vie.
Et dès ce moment-là, vous avez commencé à penser à ce qui serait possible de fabriquer, de faire ici ?
Non, d'abord, j'ai commencé à penser que je n'avais pas du tout l'âge pour être directeur et qu'il fallait que je me forme à énormément de choses. Et je me suis formé pendant 5 ans. J'ai vraiment fait mes preuves pendant 5 ans. Ils m'ont pas du tout donné le poste si facilement que ça. Et puis, quand j'ai été nommé directeur, il n'était pas question de changer la ligne artistique parce que j'en avais pas du tout la maturité. J'avais pas la culture suffisante pour, notamment du théâtre public, pour aller dans cette direction-là. Et j'avais vraiment, c'était une telle institution, c'était un théâtre qui faisait essentiellement du boulevard, mais qui était quand même une grosse maison qui fonctionnait très fort. Il n'était pas question à 25 ans de tout révolutionner. Donc déjà, j'ai dirigé le théâtre en restant dans les rails et en permettant à la maison de continuer à vivre. Et puis ensuite, quand je me suis senti suffisamment mature, j'ai réfléchi à un projet qui s'est construit avec les rencontres, avec Catherine Yégel, qui a été évidemment une rencontre déterminante, mais avec d'autres artistes, avec la compagnie Louis Brouillard, avec Anne de la Mézaga, avec Joël Pommerat, évidemment, ça a beaucoup aidé au nouveau projet. Et puis je me suis énormément cultivé, je suis allé beaucoup dans le théâtre public depuis 5 ans, et maintenant le projet, il commence à être clairement identifié, et puis...
Et c'est vrai que là, vous avez repris jusqu'à mi-juillet cet été, ça ira, fin de Louis de Joël Pommerat, qui reconstitue les débats publics pendant la Révolution française.
Ouais.
C'est un spectacle qui dure 4h30, qui a été créé, qui a joué sur les scènes subventionnées. C'était pas rien de se dire, on le fait dans un théâtre privé à la Porte Saint-Martin.
Ouais.
Peut-être on adapte les prix aussi pour que ça reste... ça soit pas si différent du théâtre public. Enfin, quelles questions ça a soulevé ?
Ben, ça ira, comme toutes les reprises du subventionné, pose des questions sur comment nous, théâtre privé, on s'introduit dans la machine de théâtre public et comment on reprend des spectacles qui ont été financés par l'argent public avec nos finances privées. Comment on fait payer les gens alors que ces spectacles-là ont déjà été payés par leur argent ? Et comment on justifie qu'on implante dans une entreprise privée une longue série d'un spectacle qui a été payé par l'argent public. La réflexion, elle se fait assez simplement. Il n'est pas question de faire des tarifs élevés, trop élevés, parce que ça a été payé par l'argent public et qu'on ne va pas encore ponctionner les gens. Donc on essaie de faire au minimum, même si on ne peut pas non plus faire ça gratuitement. En particulier pour des reprises comme ça et Raphaël de Louis qui sont vraiment des ovnis dans le paysage artistique privé, parce que jamais il y a des spectacles de 4h30 qui se montent, parce que c'était extrêmement exigeant et tout ça, il y a énormément de questions sur comment on fait venir le public, comment on explique au public que oui, c'est possible d'aller voir un spectacle de 4h30 sans s'emmerder.
Et ça, vous faites comment?
Eh ben, on fait très difficilement, avec énormément d'angoisse, parce qu'il n'y a pas de budget, parce que le spectacle coûte tellement cher qu'il faut absolument qu'on trouve des moyens de façon très artisanale d'aller chercher les gens. Eh ben, on a communiqué, on a fait des partenariats avec plein de scènes nationales, on a fait, On a vraiment essayé d'aller chercher les spectateurs là où on pensait qu'ils étaient. Et puis, on a essayé de faire des émissions de télé et de radio pour expliquer vraiment. C'était vraiment de la pédagogie, quoi. C'était pas... Parce qu'arriver et dire on a un spectacle de 5 heures monté par un inconnu, parce que Joël Pomerade, dans le secteur privé, personne ne le connaît, tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, vraiment. Donc, on a dû expliquer ce que c'était. Et en fait, en vérité, c'était pas si difficile que ça à expliquer, parce que le spectacle est, quand on l'a vu, le spectacle est tellement fou, est tellement vibrant, enrichissant, il change tellement ce qu'on est que c'est pas difficile d'en parler, et c'est pas difficile de faire envie et de donner envie aux gens de venir. Voilà.
Et parfois, vous vous dites là, c'est quand même un énorme risque qu'on est en train de prendre. Vous êtes déjà dit ça ?
En permanence. Et je déteste l'idée qu'on pense que les choses sont simples parce qu'on fait des grands spectacles avec parfois des têtes d'affiche et des grands textes plutôt identifiés. Tout ça est totalement absurde. Il n'y a aucune facilité, jamais. Quand on monte à Dame de chez Maxime avec Michel Esco dans le rôle de Petit Pont, bah non, c'est pas la facilité parce que Michel Esco, il n'est pas identifié par le grand public et que même si c'est un immense acteur. Clairement identifié par le public, et ben le théâtre public, pardon. Le grand public ne le connaît pas. Et puis les grandes œuvres que nous, on pense être des grandes œuvres, les grandes œuvres qui sont montées souvent dans le théâtre public, encore une fois, le grand public ne les connaît pas. Quand on a monté Le jeu de l'amour et du hasard, moi j'avais l'impression qu'on montait un tube absolu. Moi je connais ça depuis gamin. Et quand j'en ai parlé autour de moi, j'ai eu les yeux ronds parce que il y a plein de gens qui connaissent pas Le jeu de l'amour et du hasard ou qui pensent que, qui connaissent le titre mais qui savent même pas de qui c'est. Donc il y a un vrai travail de pédagogie, d'éducation à faire sur les publics, pour leur proposer des spectacles et populaires et exigeants.
Et là, il y a eu Joël Pomerat, il y a Feydeau. Est-ce que ça vous donne envie de continuer à programmer des auteurs contemporains? Tout en programmant aussi des classiques qui le sont pas.
Ouais, ouais. En fait, je me pose aucune barrière. Si demain, je lis des pièces contemporaines tout le temps. Si demain, je sens qu'une pièce a la capacité de remplir la Porte Saint-Martin et de surtout de trouver un public large et de rencontrer une équipe de création intéressante, je le ferai. Maintenant, j'ai aussi envie d'avoir une salle plus modeste, parce que là, avec les deux salles qu'on a, on a une salle de 200 places, une salle de plus de 1000 places. Je suis vraiment esclave de leur taille pour la programmation, et je voudrais bien avoir une salle de 600 places en plus pour justement pour proposer un travail, le même travail d'exigence et de populaire, mais avec du théâtre contemporain. C'est le prochain projet, si je m'ennuie.
Et puisque vous êtes dans le théâtre nuit et jour, est-ce qu'il y a un endroit ou deux qui sont vos endroits favoris dans le théâtre? Ou est-ce que vous nous emmèneriez si...
Mais je vous emmènerai... Si je voulais vraiment vous montrer ce que c'est que le plus profond de l'âme du théâtre de la Porte Saint-Martin, je vous emmènerai de nuit. Je suis désolé, il fait jour et donc ça ne sera pas possible. Mais je vous emmènerai de nuit, le soir, quand tout est éteint, quand la répétition est terminée, au milieu de l'orchestre, plateau ouvert, et là on ferme les yeux et juste on écoute ce qui se passe, et c'est fou parce que un théâtre ça vibre jour et nuit, et quand c'est vide et quand il n'y a plus personne, on entend des souffles, des craquements, on entend des choses folles. Il y a plein de légendes de fantômes et tout ça à la Porte Saint-Martin, mais il faut le voir pour le croire.
Et quoi comme légende?
De techniciens qui se sont fait bousculer dans les cintres alors qu'il n'y avait personne, de Sarah Bernard qui a dirigé la Porte Saint-Martin à une époque et qui dont on entendrait encore la jambe de bois marcher sur le grill, plein de choses qui sont peut-être un peu bizarres, mais voilà.
On vient de quitter la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris pour revenir en studio à la Maison de la Radio et pour retrouver le fils de Zabou Bretman, Antonin Chalon. Il est comédien, metteur en scène, il sort du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris et sa première mise en scène il y a 3 ans, c'était aussi Fedo. Il est prêt au piano pour chanter un morceau de son grand-père qui s'appelle « L'ange déchu ».
Dans l'arc-en-ciel à cache-cache, nous jouions Gabriel et moi. Quand Gabriel, faisant sa vache, d'un grand coup d'aile m'a jeté en bas. C'est étonnant pour un archange, Gabriel manque de dignité. Mais surtout ce qui me dérange, je ne sais plus comment remonter. Les voix du ciel sont bien subtiles et sont toujours à sens unique. Monter n'est déjà pas facile, descendre n'est pas catholique. Si t'es un ange, me diras-tu, c'est le moment, déploie tes ailes. C'est en vain que je m'évertue, il est trop lourd, le poids du ciel. Je suis un ange tombé, je suis un ange déchu. Je suis un ange dégringolé, je suis un ange fichu. Mon Dieu, ce qu'il fait froid sur terre, pas un cœur pour vous réchauffer. Je comprends maintenant qu'on préfère l'enfer pour ses commodités. Et puis ma robe est des plus fines, c'est peut-être même indécent. Je vais attraper une angine, et pour un ange c'est embêtant. Faut de la voix pour chanter les louanges du Créateur, et c'est pourquoi on nous a surnommés les anges pour la pureté de notre voix. Si t'as de la voix, me diras-tu, c'est le moment, vas-y, appelle. Le bon Dieu, les saints, les élus, tu sais pas qu'il est sourd, le ciel. Je suis un ange tombé, je suis un ange déchu. Je suis un ange dégringolé, je suis un ange fichu. Condamné à vivre sur terre, je dois m'habituer à mon sort. Et désormais, pourquoi le taire ? Je vivrai heureux jusqu'à ma mort. Je suis aimé d'une pécheresse, aux beaux yeux, aux appas parfaits. Et je fête avec allégresse des saints qui ne se font pas prier. Mais les mots d'amour sont étranges, elle m'appelle mon petit homme, et moi je l'appelle mon doux ange. Mais qu'importe, puisque nous sommes heureux sous le soleil et heureux chaque nuit de parvenir au septième ciel tout en perdant le paradis. Pa-da-pa-pa, pa-da. Pa-da-pa-pa, pa-pa-pa. Pa-da-pa-pa, pa-da-pa-pa, pa-pa-pa-pa. Tout en perdant le paradis.
On a commencé sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin pour finir en studio au piano quelques jours avant la première de La Dame de chez Maxime. Tout commence le 10 septembre. Je dis merci à Lionel Quentin pour la réalisation de cette émission. Merci à Inès Dupéron pour la préparation et à la technique ce soir. Merci à Pierre Monteil et Pierre Henry. Sur France Culture, il sera bientôt 21h, l'heure de retrouver la fiction avec Blandine Masson. C'est Benjamin Walter de Frédéric Sontag, enregistré en juillet dernier au Festival d'Avignon. Et puis à 23h, ce sera l'expérience littéraire de l'auteur Tanguy Viel, Le Livre des Trains, une quête sur le sentiment ferroviaire. Votre soirée autour de la création se poursuit.